Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi soir 15 mars 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Pétrole, l'Iran dévoile 5 nouveaux produits technologiques. En Syrie, 2 enfants sont tombés en martyr alors qu'un citoyen a été blessé dans l'explosion de 2 mines abandonnées par les terroristes dans les 2 banlieues de Raqqa et de Hama. Et des hommes armés ont entrepris ce 14 mars une tentative d'enlever plus de 300 élèves d'une école secondaire dans l'État nigérian de Kaduna. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. 5 produits technologiques dans le domaine du pétrole ont été dévoilés le dimanche 14 mars en présence du vice-président iranien de la science et de la technologie, Surena Sattari. Lors de la cérémonie qui s'est tenue le dimanche en présence de Mahdi Safarinian, président du parc technologique de Pardis, et d'Akbar Rambarpour, vice-président du parc pour le développement de l'innovation et d'un nombre d'acteurs actifs dans le projet du saut technologique, représentant de différentes provinces iraniennes, 5 top produits liés au pétrole ont été dévoilés au locaux de la vice-présidence pour la science et la technologie. Il s'agit du système de contrôle pour différents types de turbocompresseurs, des turbopompeurs et du turbogénérateur, des analyseurs de gaz laser à oxygène institués en temps réel en ligne dans les procédés et du système de contrôle de turbines à compression conforme à la technologie CCC. L'Iran nommera un rapporteur spécial sur l'impact des sanctions occidentales sur le peuple iranien annoncé dimanche à nos responsables de la justice d'Iran. Nous avons décidé de nommer un rapporteur spécial afin d'évaluer l'impact des sanctions injustes imposées par les États-Unis et l'Europe contre la nation iranienne, a déclaré Ali Bareri Khani, président du Haut Conseil des droits de l'homme du Parlement iranien. Les résultats du travail du rapporteur seront remis aux autorités judiciaires et aux agences de défense des droits de l'homme au niveau national, régional et international, a indiqué M. Bareri Khani. Le rapporteur prendra également des mesures visant à former un front mondial contre les violations des droits de l'homme des nations indépendantes occasionnées par les sanctions injustes des États-Unis et d'autres pays occidentaux, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Iran soutiendrait les victimes de ces sanctions injustes au sein de diverses organisations régionales et dans les forums consacrés aux droits de l'homme. En Irak, un attentat terroriste a été déjoué par les Hashd al-Shaabi à Al-Anbar. Les forces de mobilisation populaire d'Irak, Hashd al-Shaabi, ont annoncé dimanche 14 mars qu'elles avaient déjoué une attaque que les terroristes voulaient mener dans l'ouest d'Al-Anbar. le commandant des opérations d'Alambar, DH Terassem Mosley, a déclaré qu'après avoir reçu des informations de renseignement à propos d'une opération que les terroristes envisageaient de mener dans le district de Raem, visant les forces de sécurité et les citoyens, les DH ont lancé une enquête pour identifier les suspects et ont fini par confisquer les matières explosives, dont une ceinture est d'explosifs nouvellement fabriqués. Les forces de mobilisation populaire ont fait preuve de vigilance et de prudence dans le suivi des informations reçues par les services de renseignement qui ont conduit à la saisie de la ceinture explosive et à conjurer le danger pour notre peuple, a fait remarquer le commandant Mosley. L'opération antiterroriste des forces armées irakiennes se poursuit sur l'axe nord-est de la province Alambar, aux grandes dames des Américains qui font tout pour empêcher leur progression vers l'endroit où se trouvent 7000 terroristes daéchistes, aussi bien que des officiers de renseignement israélo-saoudiens. Selon une source sur le terrain, les combattants de la brigade 27 DH et une équipe d'effectifs de l'armée irakienne sont arrivés à identifier nombre de daéchistes sur l'île d'Al-Karama dans le nord-est de Fallujah. Au terme d'âpres conflits, deux têtes Daesh, Mohanad Ahmad Habib et Omar Abad Kassar, ont été tués. Deux repères des terroristes ont été aussi détruits. En Syrie, deux enfants sont tombés en martyr et un citoyen a été blessé dans l'explosion de deux mines abandonnées par les terroristes dans les deux banlieues de Raqqa et de Hama. Dans la banlieue est de Hama, le correspondant de l'agence de presse officielle syrienne Sana a fait savoir qu'une mine abandonnée par les terroristes avait explosé dans la zone de Wadi al-Azeb, au nord-est de la ville de Salamiya, ce qui a fait un blessé parmi les civils. Dans la banlieue nord de Raqqa, des sources locales ont déclaré que deux enfants étaient tombés dans l'explosion d'une mine abandonnée par les terroristes dans le village de Mouaïch, relevant de la localité d'Ainissa dans la banlieue nord de Raqqa. Par ailleurs, trois hommes armés des FTS ont été tués dans deux attaques contre leur point tchèque dans les deux banlieues de Raqqa et de Deir ez-Zor. Des sources locales dans la banlieue ouest de Raqqa ont fait savoir qu'un point de contrôle de la milice des FTS à proximité de l'aéroport de Tabara dans la banlieue sud-ouest de Raqqa avait été la cible d'une attaque aux mitrailleuses, ce qui a fait deux tués et d'autres blessés parmi les hommes armés de la milice des FTS. Les sources ont affirmé qu'un homme armé de la milice avait aussi été tué par balles des inconnus dans la localité de Hawaïch, dans la banlieue sud-est des Rezor. Une trentaine de policiers blessés, une dizaine d'émeutiers interpellés à un centre-ville saccagé. Les autorités liégeoises dressent le bilan après la manifestation Black Lives Matter de samedi, qui a dégénéré en violente émeute. Au lendemain d'une journée tendue à Liège, en Belgique francophone, les autorités locales ont dressé lors d'une conférence de presse ce 14 mars le bilan des incidents violents survenus samedi en marge d'une manifestation Black Lives Matter. Au total, 36 policiers ont été blessés dans les tristes événements d'hier, informe Christian Bopper, chef de corps de la police locale. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Des hommes armés ont entrepris ce 14 mars une tentative d'enlever plus de 300 élèves d'une école secondaire dans l'État nigérian de Kaduna, selon le quotidien Punch. Pourtant, les forces de sécurité sont arrivées à temps pour empêcher les individus de kidnapper les enfants. L'attaque s'est produite dans la nuit du samedi au dimanche, dans la ville d'Ilkara. Selon Samuel Arouvan, un commissaire du ministère de la Sécurité intérieure et des Affaires intérieures de l'État de Kaduna, les auteurs ont pris d'assaut l'école pour tenter d'enlever les élèves. Ces derniers ont donné l'alerte et les forces de sécurité se sont vite rendues sur place. À l'issue d'affrontements, les assaillants se sont enfuis. Le commissaire a précisé que les enfants avaient été comptés par la suite par la direction de l'école et que les 307 élèves étaient présents et en sécurité. Cette attaque contre l'école a lieu dans un contexte tendu dans le pays, où le nombre d'enlèvements contre rançon d'enfants d'établissements scolaires a vu sa fréquence augmenter. Toutefois, le président Mohamedou Buhari a justifié l'absence de dispositifs massifs de forces déployées par un risque de perte de villageois lors d'éventuels affrontements entre les criminels et les forces de l'ordre. Les attaques de ce type se sont multipliées dans le pays, où deux enlèvements de taille ont eu lieu uniquement en février. La zone industrielle de la ville tunisienne de Gabès a été le théâtre le 13 mars d'un drame lors de l'explosion d'un réservoir d'asphalte qui a fait 6 morts et un blessé. Selon un premier bilan, a fait savoir la protection civile. L'explosion qui s'est produite le samedi 13 mars dans une unité universelle de fabrication d'asphalte à Gabès a fait 6 morts, selon une information de la protection civile de cette ville du sud-est tunisien reprise par la presse locale. À en juger par les images, une épaisse fumée noire a recouvert la zone. L'explosion a fait, dans un premier bilan préliminaire, 6 morts et un blessé, a déclaré le porte-parole de la protection civile aux médias. Il a ajouté que les opérations de recherche étaient en cours. 4 personnes ont été tuées sur le coup, alors que 2 autres sont décédées après avoir été transportées à l'hôpital. Il s'agit de l'explosion d'un réservoir d'asphalte à l'intérieur de l'usine, précise Tunisie Numérique. La puissante explosion a rejeté le réservoir à une distance de 200 mètres, indique pour sa part Radio Mosaïque, ajoutant que la cause n'en était pas encore établie. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Une guerre totale aux portes d'Israël. Les récentes actions du régime sioniste montrent que Benjamin Netanyahou cherche un conflit militaire partiel ou général afin d'étendre son pouvoir si les élections échouent. Mais Israël n'est pas le vainqueur d'une bataille de frais, fait savoir le journal Rayal Yom. Un article du Wall Street Journal paru vendredi dernier, qui a été confirmé par des sources officielles israéliennes, a fait état des attaques des unités navales israéliennes contre 12 pétroliers iraniens au cours des 2 dernières années. Les navires iraniens transportaient des cargaisons de pétrole, de nourriture et peut-être du matériel militaire vers la Syrie. La dernière expédition a eu lieu la semaine dernière. Cela montre que Netanyahou cherche à déclencher un conflit militaire partiel ou total en compensation de son éventuel échec aux élections législatives qui devraient se tenir dans 9 jours. Si Netanyahou veut intensifier cette guerre, alors il a commis la plus grande erreur de sa vie, car il se lance dans un aventurisme qui n'est pas dans l'intérêt de ses alliés américains. C'est une guerre qui sera sans issue, comme ce fut le cas en Afghanistan et en Irak. Il doit même en ce moment affronter une coalition russe, chinoise, iranienne et nord-coréenne en Asie du Sud-Est, écrit Abdelbari Atvan, rédacteur en chef du journal Rayal Yom. Israël est actuellement assiégé par plus d'un demi-million de missiles à guidage de précision. En outre, la plupart, pour ne pas dire la totalité, des lignes de navigation sont instables, aussi bien en temps de paix que de guerre. L'attaque contre un navire israélien dans le golfe d'Oman, il y a 2 semaines, a été le point de départ des actes de représailles face au régime sioniste. L'Iran et ses alliés au Yémen, au Liban et en Irak dominent les eaux de la mer Rouge, de la mer Méditerranée et du golfe Persique, et leurs groupes affiliés sont présents dans le détroit d'Hormuz, Bab el-Mandeb et le golfe d'Araba. Quiconque cible un navire israélien dans le golfe d'Oman est en mesure de cibler d'autres navires dans les eaux libres du monde. Il peut être intéressant de noter que la frégate militaire israélienne a été détruite lors de la guerre de juillet 2006 au Liban par un missile tiré par le Hezbollah. Cette action est le meilleur exemple à cet égard. Si une guerre des frais éclate, Israël ne pourra pas gagner. Netanyahou s'est également vanté vendredi dernier d'empêcher l'Iran de prendre le parti de la Syrie et d'acquérir l'arme nucléaire. Ces déclarations ne font partie que d'une illusion électorale. Durant les 3 dernières années où des installations iraniennes en Syrie ont été bombardées, l'Iran n'a pas pour autant révoqué ses conseillers militaires. Au contraire, il a augmenté leur nombre et renforcé sa position légitime. un porte-parole de la compagnie maritime iranienne a certifié pour la première fois qu'un porte-conteneur iranien qui naviguait en Méditerranée avait été exposé à une attaque terroriste mercredi dernier en publiant des images de dommages causés au navire. Ce genre de révélation sans précédent pourrait donner une légitimité aux prochains actes de représailles. Selon les sondages, Netanyahou ne pourra pas remporter une victoire décisive aux prochaines élections pour former un nouveau gouvernement et rester au pouvoir. En conséquence, il est maintenant face à deux options qui sont amères, soit se rendre aux cinquièmes élections, soit en prison. Et nous préférons la seconde.
À tous, bonjour et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la politique régionale de la Turquie. La Turquie est présente militairement en territoire syrien. Cette présence est vivement contestée, considérée comme illégitime et illégale par le gouvernement syrien. La Turquie est également présente militairement en Irak. Cette présence également est contestée et considérée comme illégale et illégitime par le gouvernement de Bagdad, par divers partis politiques. À cela s'ajoutent ces récentes informations rediffusées par certains médias comme quoi la Turquie envisagerait de se mettre du côté de l'agresseur saoudien dans sa guerre contre le Yémen et plus précisément sur le front de cette province stratégique de Ma'arib où en fait la résistance yéménite composée de l'armée et d'Ansar Allah est sur le point d'obtenir, si vous voulez, la victoire définitive et finale sur ce front de combat. Comment peut-on considérer cette politique régionale de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan à un moment où, en fait, la Turquie multiplie ses agissements militaires dans plusieurs pays de la région, et ce alors que la Turquie avait en fait défini comme politique celle de zéro tension avec ses voisins. Mais dans l'état actuel des choses, en fait, la Turquie a, si vous voulez, une tension maximale avec ses voisins, très particulièrement avec la Syrie et l'Irak. Et comme je viens de vous le dire, à cela s'ajoutent, si vous voulez, ces éventuels agissements militaires, ces futurs, disons-le, agissements militaires de la Turquie au Yémen. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
La Turquie étant tombée d'accord avec l'Arabie saoudite, vient d'envoyer un contingent de 300 terroristes au Yémen. Mais en Irak, à quelle date remonte la présence militaire turque ? Cette présence militaire remonte aux années 1990, mais le tournant de cette présence, ou plus précisément, le moment où Ankara s'est mise à agresser militairement l'Irak, remonte à 2015, où 3000 soldats turcs sont entrés en Irak et se sont stationnés à la base militaire de Bachika, près de la ville de Mossoul. Bien que cette action ait été condamnée par le gouvernement d'Adel Abdelmadi, ainsi que la Ligue arabe et que la Turquie ait été appelée à retirer ses troupes d'Irak dès que possible, Ankara, se référant à deux accords signés avec Bagdad, a tenté de justifier sa présence militaire sur le sol irakien. Pourtant, le pic de la présence militaire turque et de l'occupation de l'Irak date du 15 juin 2020 avec en toile de fond près de 2 ans d'opérations de surveillance et de reconnaissance de l'armée de l'air turque au cours desquelles Ankara a sans cesse violé le ciel irakien sous prétexte d'avoir à éliminer les terroristes du PKK, mais à vrai dire pour se rapprocher du Sinjar. Pourquoi Sinjar ? Le sultan a pour mission d'occuper Sinjar pour couper la route Irak-Syrie et Irak-Iran. Acolyte US jusqu'aux os, le sultan est appelé à colmater le vide, puisqu'au terrain où vont les attaques de la résistance irakienne contre les États-Unis, ces derniers ne sauraient tenir trop longtemps. D'ailleurs, Ankara pense surtout au traité de Lausanne, qui expire 2023 et il veut achever l'annexion de Sinjar avant la fin du traité de Lausanne. Mais il y a plus, la rupture de la route de la soie qui traverse la ville de Sinjar en Irak et atteint les frontières de la Turquie. Là encore, la Turquie rebascule dans le camp des Américains et de l'OTAN, prenant la Chine pour cible. Mais la résistance le permettra-t-il? Il y a peu, l'ambassadeur iranien à Bagdad a vertement dénoncé cette énième manœuvre belliciste turque.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission. Le débat consacré, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, à cette politique régionale de la Turquie. Pour cette émission, le débat, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. Monsieur Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Bonjour, monsieur Dortillier, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, monsieur Norostine. Bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui qui est en ligne avec moi pour cette émission, monsieur Dortillier, depuis Alsace, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous pour votre invitation et pour votre gentillesse. Et une salutation à toute l'équipe. Ainsi qu'au co-professeur Dortillier.
Merci beaucoup. Maître Chamy, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle évaluation portez-vous sur ces agissements militaires de la Turquie dans la région et des agissements qui ont commencé tout d'abord en Irak, puis en Syrie. Et désormais, il y a des informations comme quoi la Turquie pourrait, si vous voulez, intervenir militairement au Yémen également.
Vous savez, moi j'ai toujours eu l'occasion de le dire, le sultan turc Erdogan a lu Machiavel, le livre de Machiavel, Le Prince, plusieurs fois. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu plus machiavélique que Machiavel. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une opportunité par laquelle il peut repositionner ses moyens et surtout ses intérêts, il le fait bien volontiers. Et il oublie très souvent que la veille, tel ou tel pays, ou tel président, ou telle personnalité étaient, selon lui, des ennemis jurés, et du jour au lendemain, il bascule, il fait dans le sens inverse. Ses positions par rapport à l'Arabie Saoudite sont connues, et c'est la raison pour laquelle, lui, il a privilégié ses relations avec le Qatar, quand le Qatar s'est trouvé en difficulté par rapport aux Saoudiens et aux Émiratis. Pareil, la guerre en Syrie et en Irak ont été pour lui une opportunité pour se repositionner afin de conquérir plus ou moins les territoires de ces deux pays-là, ce qui lui permettrait d'avoir des moyens de pression sur la scène internationale et régionale, et surtout pour toujours tirer un bénéfice de cette situation-là et faire oublier surtout ses difficultés internes. Puisqu'il résonne de manière nationaliste, et il fait en sorte que toujours sa population résonne avec la même mentalité, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il met une action à l'extérieur, la population turque donne ou a l'impression que c'est le sultanat qui revient, et c'est la superbe Turque qui se remet en scène. En réalité, il n'en est rien, puisque à l'intérieur, le président Erdogan, il est très faible économiquement et commence à avoir de plus en plus la terre qui tremble sous ses pieds. Concernant l'extérieur, on a vu ses échecs en Irak et en Syrie, raison pour laquelle il ne vous a pas échappé les négociations qui ont eu lieu il y a quelques jours, hier ou avant-hier, en présence de son allié habituel, c'est-à-dire le Qatar, mais en présence des Russes et en filigrane des Iraniens pour sortir de la crise syrienne à travers un principe fondamental, c'est-à-dire que les Turcs préservent l'intégrité territoriale syrienne. Il en sera de même par rapport à l'Irak. raison pour laquelle il essaye de se projeter probablement en Afrique du Nord à travers la Libye et au Yémen pour se repositionner par rapport au dollar et pétrole saoudien et surtout pour renouer avec ce qu'on a toujours appelé l'axe sunni. Mais à mon avis, là aussi, ça va être un échec, mais il est en train de jouer ses dernières cartes parce que la Turquie n'en a pas plus que ce qu'elle nous croit pour une raison simple, c'est que la Turquie va redevenir ce qu'elle était avant cette guerre en Syrie et en Irak, c'est-à-dire un pays régional qui pèse, mais sans plus, et sa position n'est intéressante que dans la mesure où elle fait partie de l'OTAN. Mais sortie de l'OTAN, elle ne peut pas jouer en cavalier seul et parfois au mépris des intérêts américains. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, peu ou tard, la Turquie reviendra vers sa frontière et sa tentative au Yémen, si vraiment elle devait se concrétiser, elle n'aura pas plus de d'intérêt que toute l'intervention américaine, sioniste, saoudienne, émiratie contre le peuple yéménite. On a vu ce que ça a donné. Rajouter les Turcs en plus, avec une projection militaire relativement éloignée, ça n'apportera pas grand-chose. Les Yéménites ont fait preuve d'une extraordinaire capacité de lutte et de combativité, je dirais, inégalée. Et derrière, évidemment, ils ont ramassé victoire après victoire au point de menacer le cœur de l'Arabie saoudite. Et nous avons aujourd'hui les preuves tous les jours sur le terrain. Et la profondeur aujourd'hui de l'Arabie saoudite est menacée. Et c'est la raison pour laquelle l'Arabie saoudite continue de crier au secours et même elle est prête, à quel point elle est prête, de revenir vers son ennemi juré, en l'occurrence la Turquie. Nous verrons dans les prochains jours si les informations devaient se concrétiser. À mon sens, il y aura une réponse à ce moment-là du Yémen et très vite les Turcs comprendront les effets néfastes de telle opération.
Monsieur de Dortiguier, en fait, à en juger par des informations que la Turquie aurait envoyé en fait des extrémistes et des terroristes présents en territoire syrien vers le Yémen pour combattre et surtout en fait les éléments de la résistance yéménite sur le front Marib. La Turquie a fait la même chose, vous vous en souvenez, M. Dortiguier, à propos de la Libye, c'est-à-dire le redéploiement des terroristes de la Syrie vers la Libye. Et cela intervient à un moment où, tout récemment, M. Dortiguier, le ministre turc des Affaires étrangères, M. Mevlut Çavuşoğlu, a exprimé sa pleine solidarité avec le régime saoudien, tout en condamnant M. Dortiguier et ces attaques de la résistance yéménite contre des cibles à l'intérieur du territoire saoudien. En fait, des attaques qui sont menées, M. Dortiguier, précisons-le, en guise de représailles et de riposte aux agressions saoudiennes.
Bien sûr, il ne s'agit pas d'une agression yéménite contre l'Arabie saoudite, mais d'une riposte, d'une riposte en effet aux attaques saoudiennes qui sont malheureusement pas contemporaines, mais qui sont très anciennes, qui sont renouvelées aujourd'hui avec l'assentiment, le soutien matériel de l'Occident, enfin de façon générale, et bien sûr, comme vous venez de dire, de la Turquie. J'ai suivi la démonstration de Maître Chami. Je dois dire qu'un point doit être éclairé. Je me mets à votre. Je prétends suivre et formuler ce qu'il dit. Il y a une illusion que donne la Turquie, que la Turquie se donne à elle-même, tout au moins à travers M. Erdogan. C'est celui, comme on le dit, d'un nouvel Ottomanie, d'un nouvel empire ottoman. C'est faux. C'est inexact. La Turquie est restée. Je me permets très modestement de féliciter Maître Chami de l'avoir dit. La Turquie est restée ce qu'elle est depuis malheureusement l'effondrement de l'Empire ottoman, c'est-à-dire un État bien beaucoup plus limité, qui est entièrement aujourd'hui, comme il a été d'ailleurs autrefois, enfin, est entièrement aujourd'hui entre les mains de l'OTAN. Il ne sort pas des limites qui lui sont assignées, même, je me permets de dire, assignées même par Mustafa Kemal. Régime
que vous savez que l'imam Roméni connaissait très bien la Turquie, connaissait, admirait le peuple turc et sa religiosité en particulier, mais ils ont dénoncé justement cette entreprise maçonnique terrible que la Turquie connaît aujourd'hui et qui explique toute sa politique. En réalité, la Turquie donne l'illusion à son peuple même, voyez-vous, de revenir à une politique ancienne qui était politique de splendeur et qui a été bénéfique, bien sûr, en Irak et partout. En réalité, non. Ils sont, à mon avis, entièrement, disons, soumis aux impératifs qu'on leur donne. Et je ne crois pas qu'avec les conditions financières actuelles que connaît la Turquie, je ne crois pas que M. Erdogan pourra faire sous longtemps illusion. En tout cas, l'exemple que vous avez pris, M. Nourestine, de ces mercenaires syriens qui sont maintenant envoyés sur le front sud-est yéménite, montre que, malheureusement, la Turquie n'a absolument pas la capacité d'être indépendante. Je dois dire que, à titre personnel, ayant connu beaucoup de quelques, disons, grands turcologues français, M. François Georgeon, d'autres personnes, un de mes amis qui a été longtemps, pendant 30 ans même, attaché culturel en Alsacien, en Turquie, je dois dire que pour nous, c'est une très grande souffrance, disons, de voir que cette manière de traiter la Turquie. La Turquie, c'est une personne, vous savez, comme on dit dans la formule coranique, c'est une personne qui est dans la robe du mensonge, voyez-vous. C'est une vérité dans la robe du mensonge. Nous aimons la vérité turque, mais aujourd'hui, cette politique mensongère, politique en fait, qui n'est pas du tout indépendante, qui est très servile, en fait, de M. Erdogan. M. Erdogan, on a l'impression qu'il suit une politique donnée, qui est dictée de l'extérieur. Elle n'a rien à voir avec, à mon avis, ni l'avenir de la Turquie, ni rien à voir avec l'espoir que nous pouvons donner, que nous pouvons avoir à cette Turquie, qui a représente quand même un capital extraordinaire de la civilisation musulmane. Mais aujourd'hui, M. Erdogan semble obéir à des ordres. Il semble exécuter une stratégie qui n'a rien à voir avec le bénéfice du peuple turc.
Des ordres de qui, M. Dörtiguet? Très rapidement.
Oh, c'est-à-dire qu'il y a, disons que les liens connus entre la Turquie et l'entité sioniste sont quand même remarquables. Hein. La personnalité, je ne veux pas insister par indiscrétion, je ne parle pas de M. Erdogan, il faudrait parler, mais enfin, ceci est en dehors de mes, disons, des conventions diplomatiques. Je dois dire que la Turquie disons, je dis en un seul mot, n'est pas libre de ses mouvements. Voyez-vous, elle appartient toujours au même système, au système de l'OTAN, au système américain, à tout ce qui est autour de cela. Et quand on fait, il y a bien sûr des positions justes de la Turquie vis-à-vis de la Grèce, par exemple, et vis-à-vis de la communauté d'exploitation gréco-israélienne du pétrole, par exemple. Je dois dire là-dessus, on ne peut qu'approuver la politique turque d'indépendance. Mais disons, dans le reste, en ce qui concerne les pays arabes en particulier, je dois dire que nous ne pouvons, disons, que déplorer la passivité de la Turquie, l'inertie de la Turquie, qui reste toujours l'esclave de l'OTAN.
Merci. Maître Chami, en fait, une éventuelle présence militaire turque en territoire yéménite, une intervention militaire de la Turquie au Yémen, aux côtés, par exemple, des mercenaires à la solde du régime saoudien, serait-elle, d'après vous, considérée par la résistance yéménite en particulier et l'axe de la résistance en général, si vous voulez, comme une présence militaire de l'OTAN, si vous voulez, au Yémen?
C'est une tête de pont, on peut le dire, mais l'OTAN, à mon sens, n'assumerait jamais ce genre de responsabilité. Ils vont essayer de jouer l'apaisement de l'extérieur, mais en réalité, ils ne sont pas contre l'idée que les Saoudiens aient un coup de main pour pouvoir ne serait-ce que réaliser une petite victoire militaire pour contrecarrer l'image détestable qu'aujourd'hui donnent les Saoudiens dans cette guerre et qui est restée sans la moindre victoire, sans le moindre bénéfice militaire. Bien au contraire, c'est échec après échec qui a été en quelque sorte subi par l'ensemble de cette coalition. Alors, en face, vous n'avez qu'un seul peuple, et le peuple yéménite, armé de convictions, de morale et de courage extraordinaire. Mais en face, vous imaginez l'argent qui a été déversé, les armes qui ont été balancées sur ce pays-là, les destructions qui ont été causées. aucun autre pays aussi longtemps, et bien au contraire, de passer à la contre-offensive. C'est quelque chose, à mon sens, qui sera analysé par les experts militaires du monde entier. Et surtout avec des gens qui ne sont pas extraordinairement armés, mais évidemment, ils ont développé un certain nombre de moyens pour leur permettre de faire face à cette situation-là. Et l'acte de la résistance, je dirais, sortirait grandi de cette guerre au Yémen, parce que c'est la démonstration que quand on a une morale, quand on a une conviction, quand on a du courage et quand on a la foi, comme quoi on peut gagner, eh bien on y arrive. Regardez voir ce qui se passe dans le sud du Liban. Dans le sud du Liban, aujourd'hui, les avions israéliens n'osent plus s'aventurer en territoire libanais, non pas parce que l'armée libanaise est exceptionnelle ou parce que l'État libanais brille par ses capacités militaires, mais parce qu'il y a une force qui s'appelle le Hezbollah, qui fait partie intégrante de l'acte de la résistance et qui a fait preuve de la capacité de protéger le territoire libanais et de voter, si je veux dire, le derrière de l'un des États les plus puissants de tout le Moyen-Orient, pour ne pas dire l'une des armées les plus puissantes du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes devant un tournant qui va basculer ou faire basculer les mentalités, c'est-à-dire créer une idée comme quoi, si on apprend à résister, si on apprend à combattre avec sa conviction, eh ben, on peut y arriver. Et c'est ça qui est important. C'est un changement de paradigme, à mon sens, sur le plan mondial et pas uniquement au Moyen-Orient. Et le peuple yéménite en est la démonstration et va être, en quelque sorte, l'un des porte-drapeaux de cette guerre contre l'impérialisme américain et contre toute idée d'occupation et de domination d'un État vers un autre État.
Monsieur Dortiguet, vous aussi, vous estimez, tout comme maître André Chamy, que voilà, désormais, le peuple yéménite, avec cette vaillante, cette résistance qu'il a manifestée contre, si vous voulez, une coalition d'agression saoudienne, composée en fait de plusieurs régimes arabes, également secondée par plusieurs puissances occidentales. Est-ce que cette résistance, ce peuple yéménite, vont donner, si vous voulez, désormais même un exemple à suivre, parce que ça montre la victoire, comme l'a dit en fait Maître Chamy, de la forte conviction, de mentalité. Oui. Est-ce de votre avis également, Monsieur Dortiguet?
Oui, c'est mon avis, Monsieur Maître Chamy. André Chamy a parlé de changement de paradigme, tout à fait, c'est-à-dire changement d'exemple, si vous voulez. C'est l'exemple donné par le courage, la première vertu selon Platon, justement, je me souviens qu'il définit l'homme. Le courage, en effet, permet, disons, d'unifier, de mobiliser ses forces, de les rendre encore plus, disons, efficaces contre un adversaire qui, lui, en réalité, ne subit qu'une situation, c'est-à-dire qui n'a pas la conviction, disons, qu'il lutte pour même sa propre existence, qu'il lutte, en fait, pour des intérêts. Et je crois que ça, c'est une leçon, comme dit Maître Chani, qui n'est pas simplement valable, enfin, compréhensible au Proche-Orient, mais qui est une formule, disons, générale, pour le monde entier. Et je crois que nous avons au début, ça fait très longtemps que cette guerre dure au Yémen. Il faut rappeler à nos auditeurs, surtout les jeunes auditeurs, que cette guerre dure, j'ai le coutume de le dire, depuis les années 60, où l'Arabie Saoudite intervenait, il y avait conflit entre le Yémen Nord et le Yémen Sud. Et aujourd'hui, il y a eu donc un aguerrissement, une sorte d'expérience que ce peuple a, justement, de la résistance et de la domination. Et donc, avec les quelques armes techniques, il suffit d'une technologie, disons, qui soit avancée, mais pas des plus avancées, pour neutraliser une technologie plus haute. Et ceci, je crois, c'est une leçon de courage, une leçon de stratégie aussi, qui sera retenue par un acte. On l'appelle l'acte de la résistance. Vous savez, l'acte de la résistance, ce n'est pas simplement le Proche-Orient, c'est également un acte qui peut s'étendre au monde entier un jour, quand les gens, les peuples, connaîtront la nature de ceux qui les oppriment.
Monsieur Pierre Dortiguet, philosophe français, spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment, Monsieur Dortiguet, d'avoir été avec moi pour cette émission. Et depuis Toulouse, merci infiniment pour votre commentaire, comme toujours d'ailleurs pertinent. Mes vifs remerciements vont également à Maître André Chamy, juriste français, spécialiste des questions internationales, qui était en ligne avec moi pour cette émission depuis Alsace. Je vous remercie toutes et tous infiniment d'avoir suivi en fait cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité à Presse TV français. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Iran, pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. La ville de Kazeroun est le chef-lieu du département du même nom dans l'ouest de la province de Fars. Kazeroun se situe à une altitude de 860 mètres au-dessus du niveau de la mer entre le littoral du golfe Persique au sud, à 164 km de Bouchehr et la chaîne des montagnes Zagros au nord. Elle est la deuxième grande ville du Fars après Shiraz. La ville actuelle de Kazeroun se trouve approximativement au même emplacement que la ville achéménite de Gazra, vers 556-330 avant Jésus-Christ et à quelques kilomètres de la ville de Bishapur qui date de l'époque sassanide, 224-651 avant Jésus-Christ. Les habitants de la ville parlent un dialecte local du persan moderne dont les origines remontent au Pahlavi, une langue iranienne, moyen perse, qui était parlée à l'époque des Sassanides, descendant elle-même du vieux perse. Mais dans la ville, et surtout dans les villages du département, il y a aussi une population de nomades rachraïs, turcophones, sédentarisés depuis de longues décennies. Le département de Kazeroun a un climat très chaud et aride en été, relativement tempéré en hiver. Il est parcouru par plusieurs rivières, plus ou moins saisonnières, qui assurent une végétation variée et fournissent les ressources en eau nécessaires pour les activités agricoles, une des ressources importantes de revenus pour les habitants. Les zones montagneuses du département, aux conditions climatiques plus douces en été, sont une destination annuelle de transhumance pour les éleveurs nomades des provinces voisines. L'économie du département est essentiellement agricole. Grâce à la variété climatique de la région, les paysans du département de Kazeroun récoltent en abondance des produits variés, des céréales, du riz, des dattes, des agrumes, des légumes, des tomates, des aubergines, des grenades, des figues et depuis quelques années, des olives. À une vingtaine de kilomètres à l'est de Kazeroun, sur la nouvelle route qui relie la région à Shiraz, vous arrivez au milieu des montagnes du Zagros, à une vaste plaine appelée Behram, du nom du village qui s'y trouve. La plaine est couverte de la végétation habituelle du sud du Zagros. À la fin de l'hiver et au début du printemps, la terre se recouvre de coquelicots du Zagros. Behram est aussi la plus grande plaine de chêne du Zagros. Les plaines de Narcisse. Le mot Narcisse est d'origine persane, Narges. En plein hiver, fin décembre, début février, les plaines qui s'étendent autour de la ville de Kazeroun sont embellies pendant une période de 45 jours de très belles fleurs, les Narcisses. Plusieurs espèces de cette fleur poussent à l'état sauvage dans cette région. Les plus beaux paysages de la saison des Narcisses s'offrent ainsi au sens des touristes et des habitants du département sur une plaine de 25 hectares qui se trouve près des villages de Djaré, Balbal et Famour.
Les narcisses de Kazeroun comptent parmi les rares espèces hivernales de cette famille de fleurs. Le lac Parishan, ou Famour, le plus grand lac d'eau douce d'Iran et du Moyen-Orient, se trouve à l'est de Kazeroun. Sa superficie moyenne est de 4300 hectares. Le lac, qui se trouve à une altitude de 820 mètres par rapport au niveau de la mer, a une importance vitale dans la sauvegarde de la biodiversité de toute la région. Tout autour du lac Parishan, la vie des habitants dépend directement ou indirectement de la vie du lac et de son écosystème. Depuis quelques années, l'équilibre de cet écosystème précieux a été troublé pour diverses raisons, dont la sécheresse et les activités humaines, destruction des roseraies pour des opérations routières. À 15 km au nord-ouest de Kazeroun, il est possible de visiter l'un des sites historiques les plus importants de l'Iran, celui de la ville ancienne de Bishapur, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Bishapur a été fondée en 266 sur ordre du roi sassanide Shapur Ier, roi de 240 à 272. La ville porte en fait le nom de son fondateur en moyen perse, Bishapur signifiant « seigneur Shapur », Bai Shapur. Les ruines de Bishapur s'étendent sur un périmètre de 200 hectares. La construction de la ville date de l'apogée du règne de son fondateur après ses importantes victoires sur les Romains, notamment après la défaite de l'armée romaine et la chute de l'empereur Valérien, empereur de 253 à 260, capturé par les soldats sassanides et transféré à Bishapur. Valérien meurt en captivité. Les Romains n'ont en effet rien fait pour le libérer, n'ayant aucun intérêt à son retour pour des raisons politiques liées à sa succession. Pendant l'ère sassanide, Bishapur devient capitale des Perses pendant une période relativement courte. Après l'islamisation de l'Iran, elle perd progressivement son importance au profit de sa voisine la plus proche, Kazeroun. Pourtant, Bishapur a été habité jusqu'au 7e siècle de l'Égypte, 14e siècle de l'ère chrétienne, avant d'être abandonné. La ville a été construite selon les modèles architecturaux de la période arsacide et hellénistique sur la base d'un plan en damier. Dans les ruines de Bishapur, nous pouvons distinguer deux parties nettement séparées l'une de l'autre. D'abord la citadelle impériale qui contient le temple d'Anahita, la salle royale, la terrasse des mosaïques et la résidence de Valérien, les colonnes commémoratives où apparaît le nom de Shapur Ier et la ville proprement dite. Maisons, voies publiques, marchés, hammams, caravanserais, etc. Tangye Chagan est une vallée étroite en fer à cheval située tout près de la ville ancienne de Bishapur, 500 mètres, et au fond de laquelle coule une petite rivière. Les rochers des deux côtés de la vallée sont décorés à intervalles irréguliers de 6 bas-reliefs sassanides. Ces bas-reliefs datent de l'époque du règne de 3 empereurs sassanides, Shapur Ier, Bahram Ier, roi de 273 à 276, et Bahram II, roi de 276 à 293. Une gigantesque statue de Shapur Ier veille quant à elle sur l'entrée d'une profonde grotte sur les hauteurs de la vallée de Tangye Chogan. La grotte de Shapur est située sur un rocher perché à 800 mètres au-dessus du village qui se trouve juste en bas au fond de la vallée. Pour monter jusqu'à la grotte, il faut une marche d'une heure et demie depuis le village. La statue de Shapur Ier est l'un des rares exemples aujourd'hui disponibles de sculpture sassanide. La technique généralement utilisée pendant l'Antiquité pré-islamique de l'Iran est dans le bas-relief. Elle a été sculptée dans un pilier naturel de la grotte et mesure plus de 7 mètres de haut.
Thank you.